RTL Tour de France 2018.
RTL chez vous.
Christophe Paco.
Bonjour à tous. RTL chez vous, au pied de la basilique Notre-Dame de Rosaire, ici à Lourdes. Rencontre, défi du jour, coup de cœur, nostalgie. RTL chez vous, c'est parti.
Tour de France 2018.
RTL chez vous.
Christophe Paco.
Jean Lassalle, député évidemment, vous êtes chez vous, sur vos terres ici.
Oui, je viens à ma circonscription qui regroupe les Basques et les Béarnais, donc ça fait déjà beaucoup, depuis Biarritz jusqu'à Lourdes. On n'a pas voulu me donner la totalité de Lourdes parce que ça aurait fait trop. Biarritz, Bayonne, Saint-Jean-Pied-de-Port, partout où on s'éclate. J'aime beaucoup ces étapes, l'ambiance qu'il y a. C'est la seule très grande manifestation nationale qui passe sous la porte des plus humbles de tout le monde. Ils ne font pas comme ce coquin de Macron qui a confisqué totalement l'équipe de France pour son journal télévisé et privant ainsi des centaines de milliers de Parisiens qui attendaient. Mais le sport, c'est ça. Et regardez les plus grandes stars, regardez leur simplicité. Je crois qu'il n'y a qu'au niveau des très grands, parce que pour faire un Tour de France, il faut être très très grand vu la souffrance. Mais je crois qu'à tous les niveaux, c'est cette chaleur humaine qui fait tant défaut à notre époque.
Jean Lassalle, vous êtes un vrai marcheur dans le sens noble du terme, hein, je veux dire, parce que vous avez fait votre marche à vous.
Hein. Moi, j'ai fait 6000 km pendant 9 mois.
La prochaine fois, vous faites à vélo votre grande marche ?
Non, l'artiste ne refait jamais deux fois le même numéro.
Merci beaucoup, Jean Lassalle.
Au revoir,
bonne route.
Au revoir, merci.
Christophe Paco,
RTL, chez vous.
RTL, chez vous, sur la route du Tour, avec la caravane qu'on adore, un métier ô combien impressionnant. Et recherchez des Français. Vous êtes magnifique avec vos Napa Caro Vichy. C'est le découpeur de saucisson. Vous êtes deux à découper ?
C'est ça, on est deux.
Comment ça se passe ? Vous coupez en petites tranches fines ?
Des tranches fines, découpées avec passion, distribuées avec amour.
Voilà. Le meilleur, c'est la fine ou c'est la un peu plus grosse ?
Les gens préfèrent quand c'est fin. La dégustation est meilleure.
Mais vraiment, le goût, c'est meilleur, vraiment ? C'est sûr, ça ? C'est une vérité ?
C'est une vérité absolue.
Moi, je suis plus gourmand, je préfère une grosse tranche.
Les gens vous aiment parce qu'en plus, il y a souvent un petit cadeau qui va avec la tranche de saucisson.
C'est ça, il y a la dégustation et après, il y a les goodies. Ouais. Les goodies, c'est les bobs, c'est les cabas et des sachets de mini-sauce.
Moi, je rajouterais le premier cadeau après le saucisson. C'est notre charme et notre sourire.
Ça, c'est vrai, Denis. Vous avez des hôtesses quand même, il n'y a pas que des garçons.
Mais on est hôtesse.
J'adore.
L'hôtesse, elle est dans la deux chevaux, mais sur la ligne, il faut représenter le saucisson par quelque chose de viril. Oui. Donc voilà, Denis et Stéphane. Oui. Stéphane et Denis. Oui. On les attend tous les matins sur la ligne départ.
Salut Denis.
Salut.
Et salut Stéphane.
Merci, salut.
Bonne journée.
Christophe Paco,
RTL, chez vous.
RTL chez vous, les défis d'Olivia Le Règle. Alors avant le départ, Olivia, de cette grande étape de montagne, c'est la dernière. Votre défi aujourd'hui, Olivia, c'est de vous faire inviter dans un bus d'une équipe française, ce serait bien.
Eh bien écoutez, je suis en bas du bus Cofidis.
Bien,
on va voir ce que ça donne.
Allez, c'est parti.
C'est bon, personne n'est nu ?
Si, c'est pas grave. Vas-y, commence devant.
Alors, Christophe Paco me lance des défis tous les midis. Et donc celui-là, c'est mon dernier défi. Mon dernier défi, c'est de visiter le bus Cofidis. Donc là, c'est réussi puisque je suis avec vous, Cédric Vasseur.
Oui, vous êtes la bienvenue. Juste 30 minutes avant le départ de l'étape, on voit que les coureurs sont encore ici en train de rester bien au frais avec la climatisation. Et comme vous pouvez vous apercevoir, il y a des dispositions un peu particulières dans un bus d'équipe cycliste.
Donc là, on est là où il y a les fauteuils, mais il y a un petit salon aussi.
Il y a un petit salon de réception à l'avant, à l'arrière. Les coureurs ont tous une place un petit peu déterminée qui garde quasiment sur le Tour de France. Ça leur permet d'avoir leurs affaires à côté et certains restent sur la banquette, d'autres sont un petit peu plus à l'arrière. C'est un petit peu au choix.
D'accord. Et donc il y a un petit espace pour se restaurer, j'imagine, une douche. On poursuit.
Il y a une douche, ouais, je vais vous faire visiter. Vous voulez prendre une douche ?
Non, merci. Enfin, quoique, il fait super chaud, donc on pourrait, mais...
Donc, des frigos, la télévision, pour nous regarder aussi un peu la course. Machine à café obligatoire pour les coureurs le matin, pour se réveiller un peu. Des toilettes sur la gauche. Et les douches ici. Pour deux ou trois personnes. Et donc à l'arrière, vous voyez hein, cette partie ici où les coureurs peuvent se ravitailler. Et là, on voit Christophe Laporte et Julien Simon qui sont en train de préparer le ravitaillement pour la journée.
Est-ce qu'il y a des moments où on fait un peu la fête dans ce bus ?
Quand il y a matière à célébrer une victoire, bien sûr, c'est dans le bus que ça se passe. Il y a toujours une bouteille de champagne qui est prête au fond, en magnum, et on attend avec impatience de l'ouvrir.
Merci pour cette visite guidée, Cédric Vasseur.
Vous êtes la bienvenue, quand vous voulez.
Bon, pour ce dernier défi, j'ai fait fort, hein, j'ai réussi, Christophe.
Vous avez été formidable sur l'ensemble du Tour de France. Défi relevé pendant 3 semaines, bravo.
RTL, chez vous.
Bonjour Laurent.
Bonjour Christophe, on fait quoi aujourd'hui?
Ah ben justement, aujourd'hui on peut revenir sur nos Français quoi quand même, Alaphilippe, démarre.
C'est... Mais c'est ça le Tour, c'est une grande vitrine et voilà, celui qui a envie de se faire connaître du monde entier, il faut briller au mois de juillet, il n'y a pas d'autre choix.
Vous avez une tendresse hein, pour, et pour les sprinteurs et pour les grimpeurs de toute façon.
Moi j'ai une tendresse pour tous les coureurs et beaucoup de respect surtout pour tous les coureurs. Mais après j'ai forcément, je suis comme tout le monde, j'ai les poils qui s'hérissent quand j'ai des actions qui me font plaisir. L'émotion on ne la ressent pas tout le temps. Mais c'est vrai que les Français ça le fait. Quand Desmar gagne et surtout quand Alaphilippe attaque, voilà, moi j'ai les poils qui s'hérissent.
Ah oui.
C'est comme ça.
À ce soir.
À ce soir. 18h30, 19h, le Club Jean Labert.
RTL, chez vous.
Comme tous les jours, plaisir de retrouver dans RTL chez vous, Christian Laborde.
Les coureurs du Tour quittent Lourdes où la Vierge Marie, le 11 février 1858, fit une apparition remarquée. Lourdes se souvient aussi de Gino Bartali, agenouillé sur un prie-dieu, à l'entrée de la grotte, le 8 juillet 48, le peloton debout derrière lui. Monseigneur Théas, évêque de Lourdes, dit quelques mots. Bartali fait des signes de croix. Ils auraient pu parler, se parler longuement tous les deux. Évoquer leur comportement héroïque durant la guerre qui leur vaudra à chacun le titre de juste parmi les nations. Monseigneur Théas dénonça durant l'occupation les lois antisémites de Vichy, fut arrêté par la Gestapo, enfermé dans un camp, avant d'être libéré par l'armée américaine. Gino Bartali, lui, se rendait régulièrement au Vatican, récupérait des faux papiers destinés à des juifs, faux papiers qu'il cachait dans le tube de sel de son vélo et qu'il livrait à Gênes. Gino sauva ainsi 800 juifs de la déportation. De ce passé, Gino ne parlait pas. « Certaines médailles sont accrochées à ton âme, pas sur ton blouson, disait-il. La seule médaille que Gino portait ostensiblement, c'est le maillot jaune. Nous aurons des nouvelles de ce maillot couleur canarie à la Reims. »
Merci beaucoup, Christian. La course, toutes les demi-heures sur RTL, avec Christian Olivier et Nicolas Jaugerot. Belle et grande journée. Vous êtes bien sur la première radio de France.
J'allais le dire, Christophe Paco, vous m'avez enlevé les mots de la bouche. Vous me permettez de rajouter quand même qu'à 13h, on va retrouver Nicolas Jaugerot, toujours sur la vroom vroom, sur la moto, sur le Tour de France. A tout de suite.
Et ce sera dans 4 minutes, puisqu'il est 12h56.
RTL. Sur les sentiers de la Grande Guerre. Samuel Goldschmidt.
Pour commémorer le centenaire de l'armistice de 1918, RTL retrace les grandes étapes de la Grande Guerre. Pendant tout l'été, du chemin des Dames à la Rotonde, Samuel Goldschmidt revient sur les lieux emblématiques du conflit. En fait, pas vraiment la Rotonde, mais le wagon de Rotonde où a été signé, bien sûr, l'armistice. Avec vous, Samuel, visite historique et guidée. 9e étape, 9e épisode, on prend de la hauteur ce vendredi dans le massif des Vosges.
1915, la montagne mangeuse d'hommes. Un surnom effrayant donné par les combattants eux-mêmes, un nom imprononçable, ce sommet est un balcon imprenable sur la plaine d'Alsace. Gilbert Wagner est guide au comité du monument national du Hartmannswillerkopf.
Alors on s'est battu pour un point de vue, on s'est aussi battu pour le prestige. Mais l'essentiel, c'était le point de vue du rocher Panorama. Le nom vous le dit, Panorama. De là-bas, de ce rocher, on a une très belle vue sur la plaine d'Alsace. Et qui possède les hauts, possède les bas.
À 956 mètres d'altitude, on voit jusqu'au Mont Blanc. Et surtout, on peut espionner tout le trafic dans la plaine. C'est pour cela que les Allemands vont faire couler le béton à flot pour construire des tranchées, 6000 abris, tenir toute la montagne, ce qui en fait aujourd'hui un champ de bataille exceptionnellement préservé, surtout grâce à la section spéciale du Club Vosgien qui s'est donné pour mission de l'entretenir depuis 1968. Robert Lénart est son président.
Le travail, c'est dans un premier temps le travail usuel d'un club vosgien, entretien, restauration et balisage de sentiers. Et la deuxième partie, c'est la restauration et l'entretien des vestiges, surtout du côté allemand. Des vestiges qui sont en murs maçonnés, il y a des vestiges bétonnés et il y a des murs en pierre sèche. Et on essaye de rattraper un maximum de choses de façon à pouvoir préserver des vestiges les plus marquants pour les générations à venir.
Les Français sont épaulés désormais par Detlef Bussert et ses volontaires allemands de l'association Expedition Hartmannswillerkopf.
La Première Guerre mondiale est complètement escamotée en Allemagne. On n'en parle pas, on n'en débat pas. C'est pour cela que nous venons ici, pour préserver ce site, pour le faire connaître chez nous. Et que l'on puisse travailler ici en toute amitié entre Français et Allemands. Cette idée me plaît beaucoup.
Travail difficile, mais dans des vestiges fascinants et des paysages toujours grandioses, dont les volontaires eux-mêmes ne se lassent pas.
Le site Hartmannswillerkopf, c'est unique au monde. Nulle part ailleurs, on va en trouver 1500 bunkers, une vingtaine de tranchées de 14-18 encore visitables. Énorme, énorme. Toutes les classes qui viennent, les profs disent 3 heures de visite sur la montagne, ça vaut 3 mois en classe. On peut toucher l'histoire.
Il est né sur les bords du Rhin, À la frontière de la France, le régiment au cœur des reins, dont nous célébrons la vaillance.
Cardinal Felsen, voix serpentine, Ziegelrückstollen, roche cermet, Kirzenstein, pain de sucre, échelle du ciel. Les soldats ont baptisé tous les points de ce monde à part qui se mérite. L'ascension à pied est rude pour aboutir peut-être au monument des Diables Rouges, les poilus du 152e régiment d'infanterie stationné aujourd'hui encore à Colmar. Leur figure de bronze, tout là-haut, contemple la plaine depuis 1921.
Super, Samuel Goldschmidt. Je suis absolument